Michael Ponge présente maintenant le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. Des dizaines de milliers de personnes prises au piège, qui manquent de tout, des blessés qu'il faut évacuer et soigner tant bien que mal. On revient sur la guerre des gangs à Cité Soleil en Haïti avec un membre de MSF sur place. Dans l'actualité aussi, AMLO qui relance le train Maya au Mexique, Bolsonaro au Brésil qui met en doute le processus électoral avant la présidentielle d'octobre. Et puis, dans le journal de la première, on se rend Guyane avec vous, Tiziana Maron, la Guyane où la justice administrative annule le permis de construire d'une centrale électrique voulue par l'État.
Oui, une décision qui satisfait les associations environnementales après une longue bataille judiciaire. Les détails à la une du journal.
C'est dans une quinzaine de minutes ensemble. Tiziana, bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Cité Soleil, bidonville à feu et à sens. Cela fait quasiment deux semaines maintenant que la guerre des gangs fait rage dans cette localité située à l'ouest de la capitale haïtienne. Les morts se comptent déjà par centaines et le gouvernement, lui, promet, mais les effets se font attendre. Bonjour Martin Chabal.
Bonjour.
Il envisage, ce gouvernement haïtien, Martin, de mettre en place un couloir humanitaire.
Un couloir humanitaire pour apporter de l'aide aux familles prises au piège. On le sait, la plupart des victimes sont des civils, notamment des femmes et des enfants. Une population privée d'eau, d'électricité et de nourriture. Il faut aussi permettre aux blessés d'évacuer, notamment les habitants de Brooklyn, un territoire enclavé au milieu des conflits. C'est à ces civils que le gouvernement dit vouloir venir en aide, mais le journal haïtien, le Nouvelliste, le rappelle, pour le moment, il ne s'agit que d'un projet.
Le gouvernement ne prend pour le moment aucune décision pour faire cesser le combat à Cité Soleil, selon l'un des agents exécutifs de la localité cité par le Nouvelliste. Il le dit au journal après une rencontre dimanche avec le Premier ministre Ariel Henry et le ministre de l'Intérieur. Cette guerre des gangs qui a déjà fait, donc on le disait, plus de 300 morts et une centaine de blessés selon le relevé du Réseau National des Droits Humains, le RNDDH. On en parlait ensemble hier. Des blessés soignés notamment par les équipes de Médecins Sans Frontières dans l'hôpital que gère l'ONG à Tabar, à côté de Cité Soleil. Arim Lipold a joint pour nous Jean-Gilbert Ndong, coordinateur de MSF en Haïti. Il nous décrit la situation sur place.
Alors, d'après les dernières informations que nous avons à notre disposition, la situation à Cité Soleil est extrêmement tendue. Depuis la journée du samedi 16 juillet jusqu'à date, il n'y a plus eu de combat important, il y a quelques tirs sporadiques, mais la situation de la population est extrêmement compliquée. Les populations n'ont pas d'eau potable, elles n'ont pas de repas, et n'ont presque pas d'accès à des soins de santé. Les gens qui veulent sortir de Brooklyn sont empêchés de sortir par les différentes factions qui s'affrontent. Et nous avons, non loin de notre hôpital à Cité Soleil, 200 à 300 personnes qui étaient sorties pour faire des courses ou qui étaient sorties travailler, qui voulaient rentrer à Cité Soleil, qui sont bloquées là. Nous avons une équipe médicale dans Brooklyn qui est elle aussi bloquée, qui essaye de procurer des soins de santé, mais c'est extrêmement difficile parce que les moyens médicaux qu'ils ont sont limités. On a pu faire sortir pour la seule journée de samedi, après plusieurs négociations, on a pu faire sortir 18 patients, dont un qui est décédé en cours de transfert. On est en train de négocier pour faire sortir encore d'autres patients.
Alors, vous dites négocier, vous négociez avec qui?
Nous négocions l'accès avec tous les groupes qui s'affrontent. Donc, nous négocions un accès Pour le moment, ça marche bien. On a déjà pu faire sortir deux groupes de patients. Je crois que le premier groupe de patients, c'était 11 patients. Et là, samedi dernier, on a pu faire sortir un groupe de 18 patients.
Est-ce qu'il y a d'autres ONG, d'autres organisations humanitaires qui interviennent sur place ou vous êtes la seule organisation qui arrive à avoir un accès à la population civile?
Aujourd'hui, après les différents communiqués de presse que nous avons eu à faire, avec l'aide des médias que vous êtes, nous avons aujourd'hui le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est en train de faire une évaluation à l'heure où je vous parle et qui va commencer la distribution de repas chauds pour quelques patients et quelques familles. Nous avons également l'ONG Concern qui est en train de prendre contact avec nous. Il y a le CICR qui envoie des donations de médicaments. Donc, il y a de plus en plus de partenaires qui essaient de faire quelque chose, mais ça reste encore très, très limité. Ça reste encore très, très limité et la population ne ressent pas encore cette mobilisation-là.
Il y a combien de personnes à peu près qui sont prises au piège par les affrontements violents des gangs?
On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
C'est énorme.
C'est énorme. Aujourd'hui, nous avons quelques staffs qui habitent là-bas qui sont bloqués, qui ne peuvent pas voir leur famille, qui ne peuvent pas retourner chez eux. Il y aurait des corps abandonnés dans les rues qui empestent. C'est un climat de ce qu'on nous décrit qui est catastrophique.
Finalement, c'est une zone de guerre et vous devez, j'imagine, aussi soigner, puisque vous êtes arrivé à évacuer des blessés, des blessures de guerre. Est-ce que vous êtes équipé pour ce genre de soins?
Nous avons la chance d'avoir au niveau de Tabar un centre de prise en charge de blessures traumatiques avec une expertise avérée. Et nos équipes travaillent depuis bientôt 3 ans dans ce contexte. Elles ont l'habitude de prendre en charge ces cas-là. C'est parfois très compliqué, mais on arrive à le faire et à procurer de bons résultats. Nous avons sur le site de Tabar pratiquement 450 personnes qui travaillent, toutes spécialités confondues, bien entendu, médicaux et non médicaux. Nous avons 50 lits pour la prise en charge des cas de traumatologie et une vingtaine de lits pour tout ce qui est grand brûlé. Et jusqu'à présent, nous arrivons à faire le boulot.
Alors, les habitants de Cité Soleil vivaient déjà dans une situation très précaire, violente. Il manque de tout, vous l'avez dit, d'eau potable, de médicaments. Combien de temps cette situation va durer, d'après vous?
Malheureusement, cette situation peut durer très longtemps, mais nous faisons vraiment un appel à tous les acteurs pour qu'ils puissent avoir des discussions entre les groupes pour que la population soit épargnée. Parce que la population n'y est pour rien, elle est littéralement aujourd'hui prise en otage et il faut absolument faire quelque chose, ce n'est pas normal. Au jour d'aujourd'hui, qu'on ait encore des gens qui puissent être coincés. Et si rien n'est fait, il y aura des gens qui vont mourir de soif, qui vont mourir de faim. Et il faut absolument, absolument que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, essayent de trouver une issue favorable pour cette population.
Et est-ce que vous avez le sentiment que votre appel est entendu, notamment par les autorités haïtiennes?
Notre appel commence à être entendu. Notre appel commence à être entendu. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui se mobilisent. Oui, notre appel commence à être entendu.
Merci beaucoup Jean-Gilbert Ndong. Je rappelle que vous êtes en coordinateur médical de Médecins sans frontières en Haïti.
Interview signée à Rim Lipold. Situation donc critique à Cité Soleil. Martin Chabal, je reviens à vous. Situation qui fait réagir le bureau de suivi de l'accord de Montana. Cet accord qui vise à mettre en place un nouveau gouvernement provisoire pour une transition politique après l'assassinat il y a un an du président Jovenel Moïse. Montana donc qui critique le laxisme du pouvoir en place à Cité Soleil. C'est toujours à lire là dans les colonnes du Nouvelliste.
Le chef du gouvernement est resté muet sur ce qui se passe à Cité Soleil, déclare le bureau de suivi de l'accord de Montana dans le quotidien haïtien. Il appelle à ce qu'il qualifie de gouvernement de facto à arrêter d'asphyxier le peuple haïtien. Les deux camps se sont rencontrés hier, mais le dialogue reste au point mort entre les signataires de cet accord et le camp du Premier ministre Ariel Henry, notamment sur la forme que doit prendre le pouvoir. Un exécutif bicéphale, c'est le point qui fâche, a avancé l'ancien député Antoine Rodon bien-aimé. Il défend l'installation d'un chef de l'État et d'un chef du gouvernement plutôt qu'un seul Premier ministre, comme c'est le cas actuellement jusqu'à la prochaine élection. Néné Mathurin, l'un des représentants du bureau de suivi, a affirmé sur le site de Réseau Nord-Ouest que le retour à la table des pourparlers dépend désormais des signataires de l'accord du 11 septembre du Premier ministre. La balle est selon lui dans le camp du gouvernement.
Et à Port-au-Prince, il est 9h19.
RFI, as vozes do mundo.
Et nous voilà au Brésil à présent. On est à 3 mois maintenant de l'élection présidentielle. Et une fois encore, Martin le sortant, Jair Bolsonaro, jette le doute sur la fiabilité du résultat qui en découlera.
À la traîne dans les sondages, Jair Bolsonaro avertit déjà que s'il perd les élections d'octobre, ce sera très probablement à cause d'une fraude massive.
Il l'a dit hier lors d'une allocution devant les ambassadeurs, notamment ceux de France et d'Espagne, en s'en prenant une nouvelle fois au système de vote électronique. Écoutez.
Nous voulons corriger les erreurs, nous voulons la transparence, nous voulons une vraie démocratie. Je suis en permanence accusé de fomenter un coup de force. Je pose la question avant parce que nous avons encore le temps de résoudre ce problème avec la participation des forces armées elles-mêmes qui ont été invitées par le tribunal supérieur électoral. Notre objectif est la transparence et la confiance dans les élections. Quel que soit le vainqueur, l'autre camp doit s'y conformer.
Une stratégie politique qui ressemble beaucoup à celle de l'ex-président des États-Unis Donald Trump, hein, c'est Martin, la presse américaine qui le note.
Jair Bolsonaro affirme que des pirates informatiques pourraient prendre le contrôle des machines à voter et truquer l'élection, comme lors de précédents scrutins. Pourtant, la chaîne de télévision Globo a déjà prouvé que cela n'était pas arrivé. La présentation qu'il a donnée hier soir devant de nombreux ambassadeurs internationaux a fait froid dans le dos à certains d'entre eux. Deux diplomates anonymes ont exprimé leur crainte dans les colonnes du New York Times. Le président brésilien aurait soumis l'idée que la meilleure manière d'assurer la sécurité des élections passait par une implication plus profonde de l'armée.
Et on l'a entendu. Du Brésil à l'Équateur, où 13 détenus ont été tués hier dans de nouveaux affrontements dans la prison de Bella Vista, établissement situé à environ 80 km à l'ouest de Quito. La plupart des victimes étaient d'origine vénézuélienne, a précisé le ministre de l'Intérieur, Patricio Carrillo.
La única realidad es que ya 13 cuerpos han sido levantados y trasladados hacia el departamento médico.
La seule certitude est que 13 corps ont déjà été ramassés et transférés au service de médecine légale, expliquait-il hier en conférence de presse le ministre, selon qui cet acte de barbarie démontre le profil psychologique des détenus impliqués dans ce type d'incident. C'est dans cette même prison de Bella Vista que 44 détenus ont déjà péri en mai dernier dans des affrontements similaires. Hier soir, l'organisme public chargé des prisons en Équateur affirmait avoir repris le contrôle de Bella Vista avec le soutien de la police et de l'armée. 8h22 à Mexico, Martin, le gouvernement du président mexicain Manuel López Obrador relance en force son pharaonique projet de Tren Maya.
C'est le grand projet du président AMLO, construire une ligne de chemin de fer pour relier tous les lieux touristiques du sud du pays. Mais ce projet avait été ralenti par les découvertes de vestiges archéologiques, de puits souterrains et de rivières sous-marines. Fin mai, un juge avait même suspendu le projet car il violait certaines normes environnementales. Le gouvernement a malgré tout repris les travaux sur l'un des tronçons, défendant que ce projet répond à des enjeux de sécurité nationale. La société en charge du projet a affirmé dans les pages du Milenio que les travaux avaient toujours été légaux.
On reste encore au Mexique, Martin, où l'enquête autour de la mort d'une jeune femme de 18 ans, Debany Escobar, fait réagir le journal La Jornada.
Une nouvelle autopsie du corps montre que Debany Escobar est morte par étouffement et non pas en tombant dans une citerne comme l'avaient conclu les autorités de l'État du Nuevo León. Le quotidien de gauche pointe du doigt l'inexpérience des agences étatiques qui conduit la voie populaire à considérer la complicité des élites. Le journal se pose des questions autour de l'enquête des autorités locales qu'il juge malveillante et prête à étouffer l'affaire. Qu'ont-ils à cacher ? Qui ont-ils protégé ? Conclut-il. Au Mexique, 11 femmes sont tuées chaque jour.
En moyenne, donc. Un anniversaire discret aussi à la une aujourd'hui, Martin. C'est au Nicaragua où le président Daniel Ortega célèbre la révolution sandiniste qui a mis fin à la dictature des Somoza il y a tout juste 43 ans.
Et alors que plusieurs de ses anciens compagnons d'armes ont été arrêtés et emprisonnés, Daniel Ortega n'a pas prévu de rassemblement de masse pour cet événement, explique Confidential. Prudence, comme chaque année depuis les grandes manifestations antigouvernementales de 2018. Aujourd'hui, 182 personnes sont en prison pour des raisons politiques. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, les partis d'opposition ont été dissous, comme plusieurs centaines d'ONG. Une grande manifestation de soutien à ces prisonniers politiques est organisée à 18h sur le parvis du Centre Pompidou à Paris.
On parlait déjà hier de la visite à venir du pape François au Canada, visite qui commence dimanche. Le souverain pontife est attendu dans le pays, sur les terres des Premières Nations notamment, pour réitérer ses excuses pour le rôle joué par l'Église dans le système des pensionnats pour enfants autochtones, hein, d'où des milliers d'entre eux ne sont jamais revenus enrôlés de force, arrachés à leur famille pour être assimilés. Les restes de 215 enfants avaient notamment été retrouvés l'an dernier sur le terrain du pensionnat de Kamloops, mais François ne s'y rendra pas, ce que regrette Angela White, membre directrice d'une association autochtone de Colombie-Britannique, territoire où la majorité des corps de ces enfants autochtones ont été mis au jour.
Il aurait dû venir en Colombie-Britannique car c'est dans le pensionnat de Kamloops qu'a été révélé ce qui est arrivé aux enfants. Les horreurs des pensionnats y ont été montrées au grand jour. Ceci dit, je comprends qu'à son âge, il a dû choisir un parcours adapté.
Des propos recueillis par notre correspondant au Canada. On termine aux États-Unis, où se déroulent les mondiaux d'athlétisme, ces mondiaux, où la sauteuse vénézuélienne Yulimar Rojas s'est envolée, on peut le dire, la nuit dernière, au triple saut pour décrocher son troisième titre mondial consécutif. Évidemment, on l'entend, elle est heureuse, mais elle avoue ne pas être si satisfaite de la note finale. Elle aurait pu être meilleure, cette note, assure-t-elle. Martin, ça n'empêche pas la presse vénézuélienne de la féliciter.
Yulimar parfaite, c'est le titre du journal de sport vénézuélien Meridiano. Yulimar Rojas baigne dans l'or, exulte-t-il. Avec son saut à 15,47 m, la triple sauteuse a déjà réalisé le cinquième meilleure performance de l'histoire et s'est rapprochée du record du monde qu'elle détient déjà. Elle fait logiquement la une de tous les journaux vénézuéliens.
Martin Chabal pour la presse, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour, Michael.
On est en Guyane. Le tribunal administratif a annulé hier le permis de construire de la future centrale électrique de Larivot à Matoury, dans l'Est guyanais.
Oui, une erreur constatée dans l'arrêté préfectoral qui accorde le permis à EDF PI. Selon cet arrêté, la commune de Matoury peut s'affranchir des restrictions exigées en bord de fleuve, près de la mer. C'est une erreur d'appréciation, selon le juge qui considère Matoury comme une commune appartenant bien au littoral. Cela donne raison à Guyane Nature Environnement, dont Garance Lecoq est la coordinatrice. Elle est au micro, Guyane la première.
Le juge fonctionne en deux temps. Premièrement, il vérifie si la loi littorale s'applique sur la commune de Matoury. Il considère que c'est le cas. Et deuxièmement, il examine les différents arguments qui sont soulevés devant lui. Il a retenu l'un de ses arguments, à savoir le fait que le site du Larivot est un espace naturel remarquable du littoral, ce qui rend le site du Larivot inconstructible. Le juge estime que la loi littorale s'applique sur la commune de Matoury, contrairement à ce qui avait été décidé par la préfecture plus tôt lors de cette année 2022. Donc voilà, le juge apprécie les faits et considère que Matoury est une commune riveraine du littoral. On est plutôt satisfait finalement que la justice reconnaisse la valeur écologique du terrain et donc son inconstructibilité. Donc on est assez rassuré de voir que nos doutes sont confirmés sur l'illégalité du projet.
Un quart des gaz à effet de serre dépend de ce que nous mangeons. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise, a publié un rapport sur l'impact environnemental de l'alimentation dans les territoires d'outre-mer. Il en résulte par exemple que chaque Guadeloupéen émet plus de 2 tonnes de CO2 pour son alimentation. Le détail de Peggy Robert de Guadeloupe la Première.
Commençons par ce que nous mangeons. L'assiette d'un Guadeloupéen se compose à 26% de fruits et légumes frais, surgelés ou séchés. Et cela représente 6% de l'impact carbone. La consommation de viande, de poisson et de produits d'origine animale représente également un quart du poids de notre assiette. En revanche, l'impact carbone est 10 fois plus élevé que l'assiette de fruits et légumes, 63%. On n'allait pas penser que c'est la faute au transport, maritime ou aérien. Non, 94% de l'empreinte carbone de la Guadeloupe dépend en fait de la production elle-même, qu'elle soit importée ou locale. Le transport, lui, ne pèse que 6% dans le bilan carbone de la Guadeloupe.
Peggy Robert de Guadeloupe, la première, et justement des produits de l'agriculture locale en Martinique viennent de recevoir le label Valeur Parc Naturel Régional, une nouvelle appellation pour les agriculteurs et les éleveurs martiniquais. Ce label a été mis en place par la Fédération des Parcs Naturels de France. L'objectif, valoriser les productions de niche en voie de disparition. Et pour la Martinique, 3 produits ont été retenus, le manioc, le miel et l'agneau martinique. Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup, Tiziana Maron, à vous et aux équipes de La Première. Merci à Hélène Avril qui est à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, à retrouver évidemment sur toutes les plateformes de podcast et sur RFI Pure Radio. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de notre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Très bonne journée à tous.
Tout à l'heure.